meilleurs résultats en termes de performance globale, mais aussi les meilleurs résultats en termes d'équité. C'est-à-dire que les meilleurs Finlandais étaient très proches des moins bons Finlandais. C'est le pays qui a le plus faible écart. Moi, ce qui m'a intéressé, au-delà de l'enquête proprement dite, c'est de savoir quelle était l'origine de ces résultats. Il y a beaucoup de questions pédagogiques qui sont très intéressantes et on va y revenir à noter en Finlande. Mais la première question, c'est de savoir comment on en est arrivé là. Et il y a une question évidemment politique. La pédagogie a tendance à effacer le politique. Alors que moi, ce qui m'a intéressé pour ce papier, c'est d'aller voir la question politique. D'où ça vient, ce modèle finlandais? Et c'est très intéressant de remonter un petit peu dans l'histoire et de voir que c'était pas du tout acquis. Au sortir de la guerre, la Finlande avait un système qui était très élitiste, où la majorité des enfants, surtout des classes rurales ou ouvrières, étaient exclus du système dès l'âge de 11 ans. Alors que le système, l'élite se reproduisait dans les écoles secondaires qui étaient majoritairement privées. Et arrive là, en 66, un front populaire, ce qu'on appelle le front populaire finlandais, c'est-à-dire une coalition au pouvoir avec le parti du centre, un parti agrarien, les sociodémocrates et la gauche communiste, et avec un programme de réforme de l'école. Programme qu'ils ont pris le temps d'installer, ils ont pris 15 ans pour faire cette réforme, en commençant par la formation des professeurs. Aujourd'hui, la formation des professeurs, c'est minimum 5 ans d'université avec un accent mis sur la pédagogie, donc l'équivalent des instituteurs, c'est-à-dire des professeurs uniques qui enseignent toutes les matières. Et ensuite, à partir de ce qui correspond grosso modo au collège français, on a des professeurs de matière. Ce qui est la clé, en fait, pour comprendre le système finlandais, c'est l'égalité des chances. Les parents ont fait pression sur le Parlement et le Parlement s'est donné les moyens juridiques d'instaurer une vraie égalité des chances. Ce qui veut dire d'abord un service public, unifié avec la gratuité non seulement de l'école, des fournitures scolaires, de la cantine, des transports scolaires et aussi du soutien scolaire, puisque le soutien est organisé par l'école. Et c'est ce qui fait une des clés du système finlandais, là, pour parler de pédagogie, c'est le suivi de chaque enfant. Et chaque enfant doit avoir sa chance. L'enseignant a le devoir d'intégrer tous les enfants, quelles que soient ses différences, que ce soit un handicap physique, que ce soit un retard scolaire, que ce soit une précocité aussi. Les enfants précoces sont aussi intégrés dans le système, que ce soit la dyslexie. Et pour cela, il y a un système de soutien qui est organisé par la loi, avec 3 niveaux de soutien. Selon les besoins des enfants, on va leur apporter, soit leur enseignant principal va les aider, va les prendre après le cours ou avant le cours, soit un professeur spécialisé va les accompagner une heure par jour, ça peut être 2 heures par jour, soit il peut y avoir un programme spécifique selon les besoins des enfants.
Et le système tient la route aujourd'hui parce que le Front populaire là, que vous évoquez, c'est plus la situation actuelle de la Finlande. Non, la situation politique n'est plus la même.
Oui, alors ce qui se passe, c'est que ce Front populaire est grosso modo resté au pouvoir une vingtaine d'années, donc il a pu installer cette réforme dans la durée. Et lorsque les conservateurs sont revenus au pouvoir, il y a eu des velléités de casser ce modèle finlandais qui n'était pas connu encore à l'époque. Et c'est là que sont arrivés les résultats du PISA. Et les résultats ont montré que l'école finlandaise, ce système-là, était très efficace puisqu'il permettait d'avoir le meilleur niveau et aussi l'accès à tous, pour tous, à un niveau important. Et donc, ça a cassé, en fait, les velléités de retour au privé, à l'école privée et surtout de mise en concurrence des écoles. Il y a eu des tentatives dans les années 90 de mise en concurrence. Alors, il y a eu des effets à Helsinki, mais ça a été, en fait, éradiqué par les résultats du PISA. Et le PISA est un moyen de contrecarrer les idées des conservateurs qui revenaient au pouvoir.
Oui, ce que vous dites, c'est que c'est pas forcément efficace pour un ministère de l'Éducation nationale dans notre pays de venir piquer quelques idées. C'est un plan large, construit, avec du souffle et sur la durée. Mais est-ce que c'est applicable en France? C'est quoi, 5 millions d'habitants, la Finlande?
Alors, je ne veux pas reprendre le travers que j'explique dans le papier qui serait de picorer tel ou tel aspect, mais en tout cas, c'est intéressant de noter l'ensemble, à la fois déjà la constitution d'un service public, et aussi, il y a beaucoup de choses qui sont reproductibles à condition d'avoir une vision large et pas vouloir prendre quelque chose uniquement en se servant du modèle finlandais pour défendre une idée qui nous est propre. Par exemple, l'ancien ministre de l'Éducation est allé en Finlande pour dire on va reprendre l'autonomie des établissements, mais c'est pas du tout dans la même perspective que la Finlande. On peut pas comprendre l'autonomie des établissements et la reproduire en France sans tenir compte du reste, c'est-à-dire du soutien de l'État aux établissements, du soutien de l'État aux municipalités, la démocratisation qui était le parallèle à la décentralisation, c'est-à-dire que les professeurs, les parents ont le pouvoir aussi d'agir sur les programmes à l'échelle de la municipalité et à l'échelle des établissements. Donc on ne peut pas reproduire un système. En revanche, on peut s'inspirer de beaucoup d'éléments et de choix qui ont été faits. Parce que tout ce que je vous ai dit pourrait nous laisser croire que cela coûte très cher, c'est pas possible, etc.